15 minutes
discussion.
For the debate.
Ensuite, le commentaire. First, thank you first all of us for to respect the timing, because 10 minutes it's so hard. And thank you for the quality of all your presentation. It's a lot of collective works now. We can make new steps about these questions. Second comment is about how each people try to define ambiances. So you use different approach. For example, semantic network, etymology, literature, or pragmatic, how we use the notion of ambiances, or history of the notion. So, depend your country, depend your language, depend your own discipline, the approach of this question is different. I think it's very interesting too. And the third comment, it's like an untalk question, because we talk about the name ambiances, but we don't talk about it. But in French, we have the question, is it a notion? Is it a notion? And is it a good question for the other language? The question of the notion, of a domain, of the... What kind of category ambiances play with scientific approach? And it could be another way for a good talk together. Please, let's open the debate.
I mean, obviously, I'm not exactly the best person, nor have I been prepared to talk about the English translation, but I did some small research before I came here. And it seems like there's a discrepancy between the American English and the English, the British English, because all the American academic work, when they talk about ambiance, they use atmosphere only. Like, they don't even debate any other their terms. It's atmosphere, and even if it's translated, it's translated to atmosphere. But I did read ambience in the work of British academic papers on ambience. So it seems like there's this discrepancy even in the what's exactly. But I think the British English separates the concept of atmosphere and ambiance a bit, but the American academic English just stick to atmosphere just because they want to standardize things. So, I mean, just throwing this out there, you need to get people who actually know how the actual syntax of both languages to tell. But that this is like just a few days of research before I came here. Just because everyone, I mean, it was interesting because everyone was trying to put things in context in English, in which case, if you think of it from a very like academic Anglophone English, even that's debatable now after this, because you go to the next level of translation and that's all for sure. That's it.
Maybe there's one explanation that's not, I mean, there's several explanations of what you were saying, but one of them maybe is simply that some research team in France started to work with English teams on atmosphere, and the term ambience was also used in this kind of research, so maybe it's starting to spread out a little bit in the scientific literature in England and not in the States.
And there's a lot of words in the traditional English language in literature and in high level academic work where the same word can be found in French and English to a point where you don't know who to get who exactly. I stumbled upon many things. You can only be sensible to it if you speak the two languages. And you read it from a North American point of view where the two just don't comply with what we write and read usually. So there, it might be that this term actually exists as in the body of work of traditional British English research, but it's not in North America. I didn't find anything there.
I totally agree, because in our field, when you use atmosphere and you talk to engineers, it's clear what the aim of the research project or building is going to be doing. And you need to talk about facts. And ambiance is like something fuzzy, so that's not something you bring at the table with these people. So when you want to bring people together, I think that atmosphere is more like linkable and more talkable, and I think it's clear. here.
It's more efficient.
Yes.
But the engineer is not.
We should have more.
The British geographers sometimes use air to talk about atmosphere. Just air.
But I think that that's the scientific, like the actual combination of the gas. But when you're talking to describe, well, I mean, in the traditional architectural and urban context, when you talk about ambiance, I mean, there's not a lot of people who are talking about it anyway, so like, we can't really do a bit of statistics over there. But I was reading the article of Baum before I came here, and Baum only uses atmosphere, or at least the translation of it, because I'm not sure if he wrote it in German and they translated that to English, or he just wrote it in English. In short, there's a small discrepancy between the British English and the American English when the concept of ambiance is talked about in papers. There's not a lot of work, not enough that I found. At least I didn't do a lot of research. I only a few days before I came here. But from the very limited amount of papers and articles I found it, North American English refers to ambiance as atmosphere. That's it. They don't even mention the word ambiance at all. British English researchers would refer to ambiance as ambiance, and that's only when we're talking about the architectural ambiances and urban ambiances in there. But and even in the translated articles, I didn't find the Baum article translated by a British person, but the translation I had, it's atmosphere only. So I think that it's also interesting to look at the very different discrepancies, because in North American English tries to simplify things in terms of just like, let's make one clear definition of things so that there's no mistake. Still too fast?
Oh. Okay.
It has nothing to do with this point, but there are some things that I've noticed in Eugenio's presentation, in the Italian part of this presentation. There are several keywords all related to signal physics, signal theory, I mean, vibrazioni, oscillation, and some other keywords. Mm-hmm. I didn't have time. Mm-hmm. And it seems to me that it's the only presentation where all those kind of keywords occur, except maybe this morning I've heard ambiance électrique in French, mm-hmm. and I was wondering whether it does not occur in the other language. First question. And second question, this electronic or this electronic analogy is something that is that has been invented during the 20th, I assume. It's something new in the language, and I was wondering whether you have improved this one. You introduced it. The necessity to create new expressions regarding ambiance. I don't know if it's clear.
I'm sorry.
Laurent, Alexandre, Pascal.
Maybe shortly, two other comments. Okay, two other comments. I thought very interesting the discussion inside the Brazilian country, because we could see different labs with the question of the hidden object. And I would say we have the same kind of discussion nowadays between two labs or three labs within the UMR ambiance. And inside the LAUA, we wanted to know, where do we go with ambiance? Will we be able to deal with these researchers? And What's the point of criticism and discussion? So I think we could do the same that what has been done with the question of the what is the hidden object. The other comment was about I don't know if it has been done in the GDRI is to question some translators that have been working on texts of urban thinkers, philosophers, who had deal with the question of atmosphere. Obviously, I think about Peter Sloterdijk or other philosophers, and what kind of choices they have they were obliged to do, and how they dealt with the question of the translation question. I think maybe it could be interesting. Maybe you've done this.
Maybe we can ask Carolina, because I think she did work on translation.
Okay.
Oui, moi, dans cette perspective-là, ce que je tire de l'après-midi, c'est que je me dis que il ne faut surtout pas que, je crois que ce n'est pas l'intention d'ailleurs, qu'on essaye de traduire les mots les uns avec les autres, ou d'une langue dans une autre. Donc il faut inventer des moyens pour échapper à ce piège, parce que le principe même de la traduction, c'est que les mots sont intraductibles, ou alors sinon les langues n'ont plus de raison d'être, et on parle tous anglais, puis c'est bon. Alors, oui, ou mieux, espéranto. Alors du coup, moi je repère plusieurs choses que on est un petit peu au hasard de ce que je comprends, et surtout de ce que je ne comprends pas. C'est d'abord des étymologies. Nicolas, tu as dit un peu ça, il y a des approches par l'étymologie, des approches par les réseaux, etc. Alors les étymologies. Et je pense qu'il y a des étymologies vraies qui sont partagées et sur lesquelles les mêmes mots, avec leurs consonances linguistiques, parce qu'il y a un A à la fin, un alpha iota ou je ne sais pas quoi, peuvent avoir dans certains cas le même sens, à peu près. Et ça c'est intéressant, c'est ce qu'on peut appeler les étymologies vraies, alors c'est en particulier vrai sur des groupes de langue latine, mais avec des inversions curieuses parfois. Par exemple, ambiente en italien qui désigne beaucoup plus l'environnement, donc la dimension assez dure, alors que dans les autres langues, ça semble assez commun, latine, ça semble, de racine latine, ça semble assez commun. Donc là, je pense qu'il y a un travail à faire pour au moins consolider ces choses-là, c'est-à-dire qu'on ne va pas traduire un mot dans un autre, mais essayer de mettre les mêmes connotations derrière les mots qui ont la même consonance parce qu'ils ont une racine et une étymologie commune. Et après, il y a des choses beaucoup plus intéressantes qui sont les étymologies fausses. Alors, je pense en particulier à l'ambiance où tout le monde a rappelé que c'était ambiré, donc tourner autour, donc on tourne autour de la définition, etc., etc. Mais il y a une étymologie fausse de l'ambiance qui est ambi, je pense, c'est-à-dire que autour c'est amb, racine grecque, hein, c'est juste. Alors que envie, c'était envie, c'est faux. Moi, j'ai toujours cru au début, on travaillait sur ce mot-là, que c'était ambivalence, que c'était ambiguïté, comme il a été dit. Et ça marche très très bien de fait. Donc, je pense qu'il y a plein d'étymologies fausses avec lesquelles on peut jouer. Il faut dire que c'est faux, mais je trouve que ça peut être assez rigolo et passer d'une langue à une autre, mais alors, vraiment en ayant cette règle du jeu. Pas traduire dans une langue d'autre, mais de déraper. Parce que sur le mot ambiance, par exemple, l'ambivalence du mot, bien, elle peut avoir des jeux différents suivant les langues. C'est-à-dire qu'on peut avoir des dualités ou des choses comme ça. Alors après, il y a les intraduisibles. Je suis très déçu par les exposés cet après-midi. Paf ! Parce que je n'ai pas vu d'intraduisible, c'est-à-dire tout le monde a essayé de dire.
Higger en danois.
Oui, alors celui-là, je pensais évidemment à un grand absent du monde arabe qui est le Barzak, qui est quand même une chose fondamentale pour travailler longuement. Et je pense que le Barzak devrait passer dans toutes les langues, ce qui désigne un phénomène d'ambiance absolument facile et rigoureux. Et après, je me demandais, dans certains mots de certains langues, je pense à la Stimmung en allemand, par exemple, qui, j'ai un tout petit peu d'oreille allemande, et je crois qu'il y a quelque chose d'intraduisible dans la Stimmung, et qui réunit d'autres langues. Donc, ce serait plus de travailler à la singularité et à ce qui échappe aux traductions dans les autres termes, de ce terme-là dans telle ou telle langue, et de termes qui n'ont pas d'équivalent dans d'autres langues. Donc ça, je pense que c'est très très riche, parce que ça permet de garder le mot dans les langues, on ne le traduit pas, mais il a un sens qui est propre à cette culture-là, qui permet de désigner des phénomènes d'ambiance, qui probablement existent dans ce pays-là, et peut-être pas dans d'autres, mais pas sûr. Peut-être que tout à coup, ils permettent de désigner et de faire exister des phénomènes d'ambiance qui n'ont pas d'existence dans certains pays parce qu'il n'y a pas les mots pour le dire. Donc, les intraduisibles, moi, je trouve que c'est un objectif important. Alors, après, il y a les relatives. Donc, tu parlais de Semantic Network. Je pense que là aussi, on voit des présentations. Alors, du coup, je plaide évidemment pour des représentations ternaires, pas tout à fait par hasard, parce qu'elles apparaissent naturellement, quand même à peu près la moitié des exposés. Et souvent, on sent des homologies, si ce n'est entre les trois termes, en tout cas entre deux des trois termes. Et je pense que là, sur ces représentations ternaires qui apparaissent assez naturellement dans les distinctions sémantiques, intralinguistiques propres à la même langue, il y a des observations à faire pour établir non pas des traductions, mais des homologies entre les choses. C'est-à-dire qu'on sait bien, nous, en français, on a travaillé X années avec chacun des chercheurs avec des systèmes et des représentations différentes. On n'a pas les mêmes mots pour dire le phénomène d'ambiance dans nos constructions théoriques. Et pourtant, dans la façon d'organiser les différences entre les mots, on a des choses qui sont très, très, très homologues, très semblables. L'ambiance qui se situe dans cette croisée-là. On l'a expérimenté en tout cas en français. Je pense que c'est expérimental entre les mots.
Pascal, les trois mots, ce sera climat, atmosphère et environnement, c'est ça?
Ça dépend je crois que ça dépend des exposés, mais il y en a eu beaucoup. Il y avait trois mots. L'espagnol, il y avait un torno qui apparaissait, qui paraît très intéressant. Et alors, ça me fait basculer sur un... Enfin, voilà, c'est à développer tout ça. Ça me fait basculer sur un quatrième orientation, qui serait les inusités ou les néologismes. Alors, le entorno, par exemple, m'a beaucoup frappé, parce que je n'en connais pas bien la connotation espagnole, je ne sais pas. Mais le mot existe en français, c'est l'entour, mais c'est du vieux français. Il ne se pratique pas, et nous-mêmes ne l'avons pas utilisé dans nos travaux sur les ambiances, alors que peut-être il pourrait être très intéressant et désigner quelque chose de plus précis que le terme environnement, qui veut dire la même chose, c'est ce qui environne, ce qui entoure, mais l'entour, comme ça n'est plus un substantif, c'est un nom propre, et il subsiste en français l'adverbe alentour. Bon, et alors, on retrouve la racine latine commune, et tout à coup, dans une langue, c'est usité, alors que dans les autres, où le mot existe, ça n'est pas usité. Pourquoi, comment, etc. Y a-t-il d'autres situations? Moi, j'ai repéré celui-là, par hasard. Et plusieurs exposés ont dit aussi que pas l'utilité d'utiliser ce mot-là, mais oui, c'est possible quand même. Il y a la discussion sur l'Indien en espagnol, ou en espagnol ou en américain, voilà, donc les inusités, et puis je mets dedans les néologismes aussi, parce que voilà, les néologismes sont inventés, d'abord ils rentrent dans la langue, hein, le néologisme n'est qu'une nouveauté linguistique, et on a vu qu'il y avait beaucoup de choses qui apparaissent depuis 30 ans, ou depuis assez peu de temps. Ce sont des inventions pour dire quelque chose de nouveau. Donc, je pense que ce sont des termes précieux à relever. Voilà, donc ça, c'est tout ça pour dire ne nous laissons pas aller à une obsession de vouloir traduire un mot par un autre. Au contraire, essayons de repérer beaucoup plus les intraduisibles pour les utiliser tels quels. Moi, j'utilise le Barzac pratiquement de manière commune maintenant avec les étudiants, etc. Depuis que je suis allé à Tunis.
Et qu'on peut expliciter ce
sera un autre objet. Mais le Barzac, il a été presque question en Norvège, en Rhône-Danemark, par le paysage. Un dernier point, qui est transversale, c'est cette fois-ci par rapport à, toujours pour échapper à la question de traduction, parce que par les mots et par l'anglais, quoi, en gros, je pense qu'on pourrait passer par l'image, donc on en a eu un bel exemple, merci, et d'avoir cette espèce de règle du jeu, de se dire que, comment j'évoque ce mot-là par exemple.
C'était fait ce matin.
L'image forte, c'était fait ce matin. Et puis évidemment par le son.
Oui, ça c'est.
Je crois que ça fait partie des exercices de prochain séminaire.
On est sur 4 ans.
Alors attendez, il y a beaucoup de mains levées. Qui a. Plus personne ne lève la main. Daniel, Jean-Pierre.
Non, juste pour dire à Pascal qui est arrivé cet après-midi, donc il n'a pas pu assister ce matin, que la question de l'intraduisible et des écarts, divergences, convergences est vraiment au cœur de ces deux journées. Donc ce qu'a dit Jean-Paul en introduction, c'est que nous cherchons à apprendre des écarts et surtout pas à superposer. Enfin, on peut le faire quand ça marche, mais on ne va pas se forcer à le faire. Donc ça, c'est un premier point. Donc ça, c'est très important. La question de l'image, ce matin, moi, j'ai tenté d'illustrer aussi par un jeu sur l'image à partir de requêtes Google, ce qu'on pouvait entendre par les différentes significations du mot ambiance. Je trouve ça très intéressant. Ce que tu as dit sur l'alentour, on a les alentours, on a ce pluriel qui est très beau aussi, les alentours, hein, qui évoque aussi une partie de l'environnement. Voilà, c'est ce qui me vient. C'est vraiment très...
Non, mais je suis bien très bien. Si vous l'avez dit ce matin, je peux
l'entour, est un terme qui est issu du vieux français. Notre première recherche s'appelait « à l'entour du cimetière ». C'est comme ça qu'on appelait les tours des petits villages ou des objets comme des cimetières. L'entour.
C'est aussi les
arbres. Alors, c'est donc juste... Il y a beaucoup. Jean-Paul.
Non, c'était juste sur l'entour. Un certain Jean Maglione, au début du Cresson, avait cette notion centrale dans son travail de recherche à Grenoble. Jean Maglione.
Pour faire cri et écrit. Alors là, je ne sais plus dans quel ordre faire, je fais dans l'ordre de second lever la main, Jean-Pierre. Levez la main et.
Bon, je vais enchaîner en français, puisque Pascal, qui est un peu
ouais. C'est par incompétence.
Donc. En réalité, j'ai une question pour René. La question est ponctuelle sur le vocabulaire allemand, mais elle pose une question plus générale. C'est que le point de vue d'entrée de présentation de Daniel et de Jean-Paul était ouvertement orienté sur le pragmatisme. C'est clair, il y a une approche qui est une approche passionnante, une ouverture à la terminologie formale. Mais il y a par rapport à ça la posture philosophique, en particulier la posture phénoménologique qui nous intéresse. Et historiquement, si on voit comment s'est décantée un peu cette thématique de l'ambiance, c'est quelque chose qui était important. Et là, je voulais réagir parce que j'étais étonné là, dans la liste des termes allemands de René. Il y avait Stimmung, il y avait Atmosphère, il y avait Climat, il y avait. Bon, là, et puis je n'ai pas retrouvé un terme qui est très fréquent chez Heidegger, qui est quelqu'un qui parle beaucoup de l'ambiance dans Sein und Zeit. Il est assez constamment question de l'ambiance. Puis on pourrait aussi dire qu'elle est présente chez Husserl et chez les fondateurs de la phénoménologie, premier temps de la phénoménologie, repris par les post-heideggeriens, les post Serbien, Soterda et compagnie. Et là, dans le chapitre 3, alors, je n'ai pas pu intervenir parce que j'ai Sein und Zeit là, sur mon portable, et puis je n'ai pas eu le temps tout de suite pour retrouver le terme allemand pour ambiance. Et donc c'est Umhafte.
Quoi?
Umhafte. Donc c'est le chapitre 3 qui est, bon, je pense que c'est Die Welt, die Zeit, der Welt, à la mondanéité du monde. Et le chapitre 3, il y a Die Idee der Weltlichkeit, der Welt, überhaupt. Et là, il y a une définition de l'ambiance. Alors je vais passer, je vais vous la donner, j'ai trouvé depuis, c'est Das Umhafte der Umwelt und die Raumlichkeit. Alors, quid de cette Umhafte, bon, ça c'est on aura une discussion à part, mais de façon plus générale, est-ce que cette terminologie de nos notions
dans le champ un peu plus académique, un peu plus restreint de la philosophie, a aussi le droit de citer un peu dans nos débats, quoi. Est-ce que c'est quelque chose qui est considéré comme secondaire ou est-ce qu'on s'y intéresse en plein droit? Voilà, la question c'était ça.
Je crois juste une précision, on s'y intéresse de plein droit, simplement on n'est pas tous philosophes, beaucoup d'architectes, d'ingénieurs, de géographes, donc on ne peut pas tous avoir une expertise sur cette approche-là. Mais elles sont tout à fait légitimes.
Allez, il y a plein de
Reiner,
Bernstein, Kuhn,
Kuhn,
donc ça fait longtemps que j'ai acheté Heidegger, Einstein, je ne l'ai jamais vu, donc non, mais ça c'est un peu futur. Non mais pour dire,
je pense que j'ai... Je vais te le
donner. Non mais j'ai déjà une jolie version. Non, ce que je veux dire, moi j'ai vraiment procédé, je trouve que c'est super intéressant cette remarque, je voulais faire une remarque un petit peu sur ce même style. Moi j'ai procédé dans le style de voir des langues courantes avec des rapports. Donc pour ça j'ai pas essayer de chercher plus loin, et je comprends cette notion, je trouve que ça le décrit très très bien, mais c'est absolument plus présent du tout dans la langue courante, je crois, avec
la chose. Mais vous êtes dans une guerre, c'est quoi?
La Fronhafte,
il n'y a personne qui le dit.
C'est courant.
Oui, vous êtes dans une guerre.
Oui, ça oui, mais ça n'a rien à voir avec un monde. Mais pour moi, j'ai beaucoup aimé l'intervention de Pascal. Pour moi, c'était un petit peu aussi la question à quoi ça sert cet exercice de traduction. Je trouve que c'est quand même, toi tu es dit peut-être avec des intrus introduisibles, nous aide à trouver quelque chose. Et pour moi, je trouve que nous devons nous poser cette question. Et pour moi, ce qui est intéressant, c'est plutôt peut-être de suivre aussi cette piste de savoir quelles est-ce que les notions différentes implique pour la recherche, qu'est-ce que ça implique pour les priorités, qu'est-ce que ça implique pour les exclusions, je trouve. Parce que je me suis demandé à la fin, pourquoi ça sert cet exercice? C'était intellectuellement intéressant, mais je trouve une suite pourrait être intéressante. Effectivement, Pascal, avec tous ses critiques, a ouvert une porte pour la pratique de la science. Je trouve que c'est très, très, très important. Et le réseau est en train de faire la politique de la recherche, un petit peu avec ses choix de mots, avec ses encore les pluralités, mais en même temps pas du tout les pluralités, ça s'appelle pas le réseau ambiance, ça s'appelle le réseau
ambiance. Alors, short comments by
juste une petite précision, cher Pascal, comme linguiste, je ne vais pas, commenter cette question de l'étymologie fausse. Okay. En fait, l'étymologie d'un dire, c'est pas fausse, c'est vrai. Ce qui est faux, c'est d'expliquer la langue ou la société ou n'importe quoi à partir du passé. Le passé peut servir à éclairer le présent, mais il faut expliquer toujours à partir du présent. Et pour la langue, ça se passe comme ça. C'est juste, je sais de quoi tu essayais de parler, mais quand même, étymologie fausse, ça va pas. C'est pour les gestes. Mais c'est juste pour ce geste, même ethnicité, même pour la forme des langues.
Excuse me, I didn't understand half an hour of French discussion. I don't understand anything. But let us think on the contrary. Ambiance in French, as we saw in the discussion, has no identical definition. If we all agreed that we will put a term in our dictionary for the so-called ambience, what will be the description for this AAA? Okay. If we all of us see in his dictionary, in his language dictionary, the new term ambience in French, in English, in Arabic, in Danish, what will be the description that we are expected to see in the dictionary? I think to get the final answer for the right translation,
all of us have to write a paragraph, one maximum one-page paragraph in his language to explain what is ambience. And then we can discuss in questionnaire, on internet, on let it open for all community in this language to discuss if this word is much appropriate or is a most one that can explain this description for two paragraphs or three paragraphs or what. But all of us in many cultures, in many languages, we can't put an opinion for another language and another culture. I think we can think in this way, so we can all of us put a certain definition in our dictionaries, in our culture, in our education, and we can then put a new terminology for ambience, or if it is not already exist in our language.
Thank you for this proposition. To recall everything. Jean-Paul.
Non, c'était juste peut-être une remarque générale sur le.
English,
Just a general remark on what we heard this afternoon about the fact that the notion of ambience and the way it is could be eventually translated in different languages shows that the term itself is a lagged term. So we should not try to say that's the right way to do it, or that it is that's the right term, or it's not the right term, or even there's different ways to translate the same term as ambience. Precisely because the term itself is changing over time, and we heard this several times so instead of saying there's one term and then we should try to basically to get as close as possible, which is the exercise and which is interesting because it shows the differences, and that's the point of I think of the exercise. At the same time, we have to acknowledge the fact that this field of research is changing a lot. We talk about the evolution of the term. We talk about the spreading of the terms in another language. So that's something also to recognize and say, not to have a fixed definition and even try to define anything. I don't think that's a question of definition of the term. It's more what, when we do this exercise, do we learn, and what kind of problem and question and is agreement or disagreement we can explore through this exercise. So the translation exercise is not an end, it's just a tool in order to work and to identify some specific question that we'll have to work with.
Thank
and
you.
Last thing on the...
Last one,
on the question of the translatable, as Pascal said, of course there's a philosopher, French philosopher, Barbara Cassin, who wrote this very huge book on what she calls the intraductible, which is basically a book in French with a lot of various philosophers who try to identify some words that are not translatable in the philosophical field in another language. But I think that this idea of intraductible is very interesting when we put it in its context, which is either philosophy or science, when we talk about specific context, but when we talk about everyday language, as it was here, everyday language is much more labile, much more open and variable than science or even philosophy that try to define. So I think that the question of the intraductible maybe has more sense in philosophy or science than everyday language.
Thank you, all of us, for your energy and the quality of the debate and some proposition for the group. We need to keep energy for the next step of the workshop.